Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent. C'est Marc Landrier, votre humble serviteur, et nous sommes toujours avec notre invitée Marlène, experte en ressources humaines, pour continuer sur la lancée des questions relatives au recrutement. Maintenant, bon, je sais que Marlène, toi, tu es une passionnée de LinkedIn. Donc, moi, j'aimerais savoir quel est l'impact de LinkedIn dans un processus de recrutement. Quels sont les aspects que les recruteurs regardent sur LinkedIn pour pouvoir recruter une personne?
Ok, déjà dans des grosses structures, on a ce que les recruteurs ont ce qu'on appelle, on appelle LinkedIn Recruiter. C'est une
OK.
plateforme qui est différente de celle que vous avez vous, qui fonctionne exactement comme un gestionnaire de talents, un gestionnaire de compétences. Au fait, en gros, avec LinkedIn Recruiter, moi, si je recherche un poste, je tape des mots-clés et puis les profils qui correspondent à ces mots-clés-là sortent ou ne sortent pas. Donc, d'où l'importance de bien remplir son profil LinkedIn, de mettre les mots-clés qu'il faut, de mettre les intitulés de poste qu'il faut, de bien être référencé au niveau pays. Je dis aux gens, par exemple, si vous recherchez, si vous vivez aux États-Unis, que vous recherchez une opportunité d'emploi en France ou au Canada, c'est bien de le signifier parce que si moi je fais ma recherche par pays, que vous n'avez pas précisé que vous recherchez un poste en Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais apparaître, à part si je me prends la peine de mettre compétences aux États-Unis, mais ça va pas être, c'est pas intéressant. Il y a des, en fait, sur LinkedIn, Twitter, vous allez avoir position actuelle, c'est-à-dire votre pays actuel, puis envie de déménager ici, ou est disposé à déménager ici. Donc, il faut bien remplir son LinkedIn. En fait, LinkedIn, pour moi, c'est une grosse base de données. Pour tous les recruteurs, LinkedIn, c'est une grosse base de données de profil. Et on a l'avantage d'avoir vos photos, on a l'avantage d'avoir votre activité, on a l'avantage d'avoir, si vous êtes dans notre réseau, de voir vos publications. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas
Donc,
si j'ai la question.
c'est clair, c'est clair.
C'est ça. Ça va nous permettre de faire des dossiers présélectionnés. C'est pour ça que c'est très important de parler beaucoup de mots-clés parce que tout se fait par mots-clés. Voilà. J'entends par mots-clés, au fait, des mots spécifiques, des mots qui sont spécifiques à un corps de métier. Je vais dire, par exemple, sur la gestion de projet, on va dire, quand on dit PMP, Franck, ça te parle?
Exactement.
Absolument.
Utile, ça te parle.
Absolument. Bien sûr.
Ok. Donc, disons que moi, si je vais chercher des gens qui travaillent sur la gestion de projet, au lieu de taper gestion de projet de façon bateau comme ça, je vais taper PMP parce que je sais que c'est une certification qui est de plus en plus cotée dans votre domaine.
D'accord. Je comprends.
Voilà. Je vais taper utile. Ça, par exemple, c'est un mot-clé. Ensuite, sur la cybersécurité, je vais chercher, si je m'abuse, sur votre site, vous avez une formation en cybersécurité là, qui est très cotée là. Comment ça s'appelle? Même si, quoi là. Bref.
CSSP, la certification
Voilà.
CSSP.
Voilà. Donc, tu vois, je vais taper ce type de certification. Je suis sûre que, bon, là, je vais quand même. Et ensuite, je vais taper d'autres mots-clés. Ensuite, si c'est sur de l'audit ou de la sur de l'audit ou de la comptabilité, ils ont des termes spécifiques. Un mot-clé, ça peut être un logiciel particulier, par exemple pour les entreprises qui utilisent SAP. Si sur la comptabilité, si je recherche quelqu'un qui connaît SAP, je vais taper des mots-clés en rapport avec la comptabilité, mais je vais surtout mettre SAP là-dessus. Voilà, donc au fait, c'est ça un mot-clé. Donc, si ces choses-là n'apparaissent pas sur votre profil LinkedIn, vous êtes mal barré quand même. En fait, c'est la même chose qu'on fait quand on utilise des gestions de candidature pour trier, des outils pour trier des CV. LinkedIn nous permet de faire, et LinkedIn fonctionne de plus en plus comme ça, en tout cas la version recruteur.
D'accord, c'est très bien. C'est très bon à savoir. J'aimerais revenir un peu sur les recrutements des gens qui viennent de l'extérieur. Très souvent en entreprise, à tort ou à raison, on a l'impression que les postes de, par exemple, manager senior ou bien directeur, les entreprises font un peu plus confiance aux profils qui viennent de l'extérieur. Je prends par exemple le chemin classique de l'Ivoirien qui a eu son bac en Côte d'Ivoire. Il y en a un qui reste à Abidjan et un autre qui va faire les études à l'extérieur, qui a une petite expérience professionnelle à l'extérieur. On se rend compte que dans plusieurs cas de figure, ils ont année d'expérience. Celui qui a travaillé à l'extérieur obtient des postes un peu plus haut que celui qui est resté au pays. À tort ou à raison. La question derrière, c'est pourquoi, si c'est vrai, en tout cas, pourquoi les RH sont un peu plus friands des profils qui ont exercé à l'extérieur, en Europe ou par exemple en Amérique?
En fait, ils ont pris l'ascenseur, Franck.
Voilà, mais pourquoi on
Donc,
appelle ça ascenseur? Puisque c'est les mêmes, à peu près les mêmes choses qui se font. Bon, en tout cas, on peut le penser. Mais pourquoi?
non. Déjà, il faut mettre les choses dans le contexte. On va prendre sur le domaine ressources humaines. Qu'on le veuille ou non, la maturité des entreprises, des entreprises à effectif égal de société en France, même pas à effectif égal, n'est pas la même que la maturité en termes de ressources humaines des sociétés en Côte d'Ivoire. Je me rappelle que moi, quand j'ai commencé à travailler dans le recrutement, quand je parlais de recrutement à mes parents, le monsieur même, il avait l'impression que j'étais allée gaspiller leur argent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et quand je parle de recrutement aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte au fait que les gens découvrent des choses que moi j'ai peut-être appris il y a 3, il y a 4, il y a 5 ans. Et là, tu te dis, ce n'est pas parce que les personnes ici ne sont pas forcément brillantes, hein, mais c'est juste que sur certaines problématiques, le fait d'avoir été à l'étranger dans des pays développés, la maturité n'est pas la même. Au fait, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la différence. Et il y a un autre critère, dans certains pays développés, on a la possibilité d'évoluer plus facilement. Moi, je trouve qu'en Côte d'Ivoire, on évolue à part la grâce de Dieu. Je trouve que les
C'est
gens sont
difficile.
encore, c'est difficile d'évoluer. Les gens sont en mode, il y a des moments, je dis, mais waouh, les gens qui disent, mais 8 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, mais pour ça, on a besoin d'avoir 10 ans d'expérience. Il faut être sérieux. Mais quand vous mettez dans le contexte, les gens vont vous dire, c'est à partir de ce niveau d'expérience-là qu'on vous donne accès à ce que moi j'ai appelé les secrets de Dieu, quoi. Alors que c'est des choses auxquelles vous vous frottez facilement quand vous êtes dans des sociétés, dans d'autres pays. Donc, est-ce que c'est ce qui joue en faveur des gens de l'étranger? Ça le peut. C'est possible. C'est comme en termes de... Moi, quand je vois les gens en train de trembler pour le télétravail, je disais encore, Marc, franchement, Marc Landry, est-ce que toi, c'est des choses que tu connais pas?
En fait, chaque semaine, avant même le Covid, hein, chaque semaine, pour être honnête avec vous, moi, je travaillais pratiquement 2 à 3 jours au bureau et peut-être 2 à 3 jours de la maison, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est courant ici, en
Le béaba chez les autres, c'est le spectaculaire chez nous.
fait.
Mais
C'est
quand
ça.
quelqu'un vient t'en parler parce que oui, mais là, mais machin, mais et quelquefois vous avez l'impression que d'autres sont peut-être. Je dis, mais non, c'est pas une affaire de. C'est comme aujourd'hui quand je dis aux gens, si vous savez à quel point le milieu associatif développe le leadership, vous n'imaginez même pas. J'étais dans une école où on a ce qu'on appelle, on avait un parcours qu'on appelait le parcours associatif. Donc, dans le parcours associatif, vous avez des personnes à qui on demande de créer des associations ou de militer dans des associations d'autres personnes, qui ont des associations qui existent déjà, de les reprendre en main ou de créer des startups qu'ils gèrent sur une période, une année scolaire et tout ça. Mais ces personnes-là, moi, je sors d'une école où on n'est peut-être pas les meilleurs. Mais quand vous voyez en termes de personnes qui ont sorti des sociétés, des startups en France, on fait partie des top 5. Mais pourquoi? Parce qu'ils nous ont inculqué le fait de vouloir entreprendre. Donc c'est comme ça qu'on va battre des personnes qui ont fait des écoles qui sont beaucoup plus cotées. Les gens ont l'impression que les RH sont friands des profils qui ont fait l'extérieur. Au fait, je pense que personne n'a envie d'aller chercher des profils à l'étranger. En général, quand on commence à se tourner vers l'étranger, c'est qu'on ne trouve pas notre perle sur le marché. Ça aussi, il faut, à part, bon, sur certains postes, nous en pourrons parler, plus tard, ou c'est une politique, une politique, par exemple, sur les postes d'expatriés. On a des postes dans certaines entreprises qui sont identifiés comme des postes d'expatriés pour permettre à des personnes dans d'autres pays de connaître l'environnement de la société ailleurs et tout ça. Ça facilite le management interculturel. Ça, c'est autre chose. Mais en vérité, on recherche toujours sur le marché local. Je disais, la particularité du marché de l'étranger, c'est que sur certaines problématiques, les gens sont beaucoup plus mûrs. Donc, je donnais mon exemple tout à l'heure. Quand moi, je parlais typiquement au début à mes parents et tout ça, mon père, il avait l'impression que j'étais allée, mais il disait, mais celle-là, elle allait gaspiller mon argent. On lui dit d'aller faire les études de finance, de machin et tout. Je ne comprends pas, cet enfant. Et même quand il parlait de finance, il ne savait pas trop hein, de quel type de finance, mais il fallait que je fasse des études de finance ou en économie, bref.
C'est ça.
Mais aujourd'hui, avec l'évolution des ressources humaines en Côte d'Ivoire, et même quand les gens lui font des retours sur les conférences et tout ça, ils commencent à se dire, ah, mais son affaire de métier, là, on dirait que c'est sérieux, hein. C'est un peu sérieux ce qu'elle fait, en fait. Voilà. Donc, je disais tout de suite tout à l'heure à Marc Landry, tout le monde en train de, la Côte d'Ivoire en train de trembler sur ces histoires de télétravail. Vous allez voir des gens qui sont totalement bouleversés. Mais alors que je suis convaincue, Marc Landry le disait, il fait du télétravail 2 fois, 3 fois dans la semaine. Donc, quand vous êtes à l'étranger, que vous avez une certaine maturité, quand vous avez fait face à des problématiques, moi je parle dans mon métier, vous avez fait face à des problématiques sur le recrutement où vous vous dites, mais vous. Et quand vous arrivez ici et puis les gens rencontrent des problématiques et puis vous êtes là, vous êtes sereine ou vous êtes sereine, mais non, c'est la culture de l'étranger parce qu'on a eu l'opportunité d'être dans des pays où ils sont beaucoup plus mûrs que nous. Donc quand même, il faut reconnaître ça au profil de l'étranger. Il faut reconnaître que quand toi, tu commences à mettre en ton télétravail, là, quelqu'un qui a travaillé en télétravail pendant 5 ans, mais il ne peut pas trembler. Au contraire, cette personne-là va être une appui. Quand aux États-Unis, moi j'aime tellement les ressources humaines aux États-Unis, c'est un autre niveau, c'est un autre level. Tu te dis, mais quand la France... Si vous êtes un peu bilingue, que vous vous renseignez un peu sur ce qui se fait aux États-Unis et que vous avez eu la possibilité, pour celles qui ont eu la possibilité de travailler sur des problématiques de ressources humaines dans des pays comme les États-Unis, mais vous allez comprendre qu'ils sont loin. Aujourd'hui, tout le monde parle de coaching, 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 mais ça fait combien d'années qu'on ne prend pas son temps à coacher les gens, je ne sais pas, Marc Landry.
C'est clair. Depuis longtemps.
Ça fait combien d'années qu'on parle d'intelligence émotionnelle? Ça fait combien d'années qu'on parle de talent management? Ça fait combien d'années qu'on parle d'inculquer la valeur de l'excellence? C'est-à-dire, ça fait combien d'années qu'aux États-Unis, on parle d'inculquer le patriotisme aux gens? Mais tu te dis, dès le bas âge, on apprend aux gens à être, en tout cas dans les écoles, dans certaines écoles, on apprend aux gens à être développés. Moi, je connais des gens qui ont fait des études dans des écoles où, petit à petit, on éliminait les matières dans lesquelles ils n'étaient pas brillants pour qu'ils puissent se spécialiser, pour qu'ils puissent exceller dans les matières. Mais ces personnes-là, quand ils sortent d'un système comme ça et qu'ils ont la possibilité d'évoluer dans des systèmes, mais tu ne peux pas venir leur dire qu'ils ont besoin de 10 ans d'expérience parce que ce que quelqu'un aura obtenu en 10 ans d'expérience dans un contexte pas trop développé, la personne va l'acquérir en 5 ans ailleurs et il va venir te damer le pion. Moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est ça dépend. Il y a 2 types de personnes qui viennent de l'étranger. Il y a celui qui vient de l'étranger parce qu'il fallait recruter quelqu'un de l'étranger et qui, sur le terrain, comme chez nous, on dit, il pique pas.
Effectivement.
Mais tu as une certaine légitimité. Ce genre de personnes-là ne font pas long feu dans une entreprise. Parce que les gens vont commencer à grogner, les gens vont commencer, même ces éléments vont commencer à, ces équipes vont commencer à démissionner et tout ça. Mais quelqu'un qui connaît, mais il challenge les gens. C'est comme chez nous, on dit, si tu as travaillé en cabinet de recrutement, les années comptent double. Si tu as travaillé dans l'IT, les années sont doubles. Parce que dans l'IT, en tout cas, que ce soit en France, les ressources sont pénuriques. On vous demande de trouver des gens, de recruter des personnes en situation de pénurie, des personnes qui se font chasser, comme chez nous on dit dans notre jargon, chasser, c'est-à-dire que tu l'as débauché là. La minute où tu l'as débauché, son prix sur le marché, à, comment on appelle ça, il prend 10K ou 15K de plus.
Rapidement.
Parce que c'est son label dessus. Mais un contexte comme ça, un recruteur qui a évolué en cabinet de recrutement où les missions sont différentes, où demain tu es en train de recruter un ingénieur agronome, demain tu es en train de recruter, de chasser des chirurgiens, demain tu es en train de chasser des experts comptables, demain tu es en train de chasser, parce qu'en vérité les recrutements qu'on confie en cabinet, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est des choses qui nous embêtent,
c'est clair,
qui vont nous prendre du temps, donc on préfère déléguer. Mais un recruteur qui sort du cabinet, d'un bon cabinet, mais il est toujours plus poignant que celui qui est resté plan-plan dans son entreprise ou... en fait, c'est ton école qui fait ta carrière. Donc, je comprends hein, que certaines... Mais on trouve des talents partout. Il y a des personnes aussi qui n'ont peut-être pas... qui ne se sont pas frottées aux réalités de contexte développé, mais qui sont curieux de nature. Moi, je sais même pas pour lui faire de la publicité. Moi, j'ai un patron, mais qui me bluffe. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et je dis tous les jours que je suis quelqu'un, je ne peux pas travailler avec une personne qui ne m'apprend rien, en fait. Mais le monsieur, il a un parcours ivoirien, quoi. Mais il est brillant. Il me challenge. Il m'apporte des choses. Oui, il a de l'expérience. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais vous allez mettre des personnes qui sont au même poste. Mais quand ils parlent, je me demande, mais où ils ont fait leurs ressources humaines, là?
C'est clair.
A des talents. Ton école, l'école de l'étranger, c'est une belle école. L'école de l'étranger, ça a ses avantages. L'école de structure avancée, ça a ses avantages. Voilà. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens qui calquent leur avancée. C'est comme on dit, si tu veux te... Moi, je dis toujours, on va dire... Ah oui, mais telle entreprise a fait ça. Je dis, mais non. Pourquoi toi, tu n'as pas envie de pourquoi tu vas te limiter aux gens qui, on sait, qui sont dans l'équipe des médiocres? Si nous, on a envie de se comparer, on va se comparer au leader du marché. C'est la vie, quoi. Donc, les ressources, ouais. Là, on cherche ici. On cherche ailleurs. Et quelquefois aussi, vous savez, les ressources d'ailleurs, il y a des moments, par exemple, il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément envie. Et puis, franchement, à part si une entreprise a une politique d'expatriation un peu particulière, les talents, on les cherche au niveau local. C'est moins cher et c'est plus avantageux de recruter localement que de le recruter à l'extérieur.
Ouais, je pense que les éléments sont vraiment très clairs. Les éléments que tu as donnés sont très clairs par rapport à la maturité, par rapport à, j'ai envie de dire même l'avance hein, sur ce qui se fait ici au pays. Oui, effectivement, ça prend tout son sens. Okay.
Oui. Et je pense que la transition est bien trouvée, hein, parce qu'elle est en train de parler tout à l'heure de contrat d'expatriation. Donc, moi, ce que j'aimerais demander, c'est comment négocier un contrat d'expat?
Déjà, à part si vous avez un profil super, 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 contrat d'expatriation, je ne négocie pas. Une entreprise définit les contrats, une entreprise a des positions qu'elle ouvre en contrat d'expatriation. Parce que le contrat d'expatriation est encadré. Le contrat d'expatriation a une durée limitée dans le temps. On ne peut pas expatrier. Bon, les gens disent qu'ils sont expatriés, quelquefois ils ne sont même pas expatriés. On a des contrats qu'on appelle des contrats locaux améliorés. Ce n'est pas des un contrat d'expatriation. Mais les législations du pays encadrent les contrats d'expatriation. Le contrat d'expatriation, c'est sur une durée, en fonction des pays. Certains pays, ça va être, je crois, 3 ans, 2 ans, 3 ans renouvelables, une fois, 3 fois maximum. Voilà, donc on ne reste pas expatrié à vie.
OK.
Voilà, maintenant, on peut avoir un contrat d'expatriation ou un contrat local amélioré. En général, dans des sociétés sérieuses, on identifie des positions clés qu'on met en contrat d'expatriation.
Okay.
Dans la plupart des entreprises, ce qu'ils font, c'est-à-dire quand ils ont une filiale, ils ont ils ont une entité à Hong Kong, ils ont une entité à Dubaï, ils ont une entité à Abidjan, ils ont une entité au Sénégal et tout ça, pour permettre aux enfants, à certaines personnes de découvrir l'environnement ailleurs ou de se frotter, d'apporter un certain type d'idées, de nouvelles idées, parce que de toute façon, on est riche de la culture des autres, on est riche du bon fonctionnement des autres, on fait des contrats d'expansion. Mais c'est des postes pour lesquels, en général, on ne recrute pas quelqu'un à l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, si on veut un contrat d'expatriation, ça va être une mobilité interne. Donc, on va prendre quelqu'un qui est déjà dans la société à Hong Kong et qui va venir à Abidjan.
Okay.
Donc,
okay.
Pour ceux qui ont un contrat d'expatriation, je pense que c'est un secret d'RH que je vous donne.
Merci.
Et c'est comme ça que plusieurs sont rentrés à Abidjan. Mm-hmm. C'est identifier des entreprises qui sont dans le pays où vous êtes et qui ont également une entité à Abidjan.
OK.
Voilà. Et en général, des entreprises qui, sur le moyen terme, ont envie de créer une entité à Abidjan. Vous allez voir à Abidjan ou au Sénégal, vous allez voir que quand ils vont vouloir créer l'entité, tout de suite, ils vont chercher dans leurs effectifs quels sont les personnes qui ont envie de rentrer.
Mm-hmm. Oui. Voilà. Ça, c'est...
Vous dire
ah, c'est bien
cette personne-là a déjà la culture de l'entreprise au niveau worldwide. Mm-hmm. Et plus, cette personne a l'avantage d'avoir la culture pays parce qu'elle est née dans le pays, parce qu'elle est comme ci dans le pays, parce que. Ça aussi, c'est des CRH que je vais lire. Comme ça qu'il faut faire ses calculs, au fait. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, vous pouvez négocier pas forcément des contrats d'expat, mais des contrats améliorés, des contrats locaux, donc sous contrat, par exemple, si vous venez en Côte d'Ivoire, sous droit ivoirien, mais vous vendez votre compétence. Dans le contrat d'expat, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a ? C'est votre logement, vos factures, vos billets d'avion, ou encore l'école de vos enfants, mais
c'est
des choses, mm-hmm. des choses que le logement, il y a des entreprises, il y a des gens qui n'ont pas de contrat expat, mais à qui certaines entreprises payent le logement, certaines entreprises payent les frais de déplacement carburant, d'autres prennent en charge l'école des enfants alors qu'ils ne sont même pas expat. Ça existe. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut, il y a des... Ça dépend quelles sont les compétences, quelles sont... Et puis en Afrique, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de réseautage. Hein. En Afrique, pour certaines opportunités, il y a les gens publient des annonces sur Internet, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de réseaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseaux sur certaines positions. Il faut connaître les bons gens. D'où l'utilisation de LinkedIn. C'est pas tant parce que vous n'avez pas les compétences. C'est juste que par exemple, pour certains postes de directeur, vous allez voir qu'on met très peu d'annonces parce que le directeur en place, le directeur actuel est toujours en place. Parce qu'il va démissionner, qu'on n'a pas forcément envie que ça s'ébrute. Donc, d'où l'importance d'être dans les réseaux d'alumni, même si vous avez quitté la Côte d'Ivoire, de continuer d'être dans les réseaux d'alumni. Même quand vous êtes en vacances, continuer de faire du réseautage. Voilà, c'est important. Mais sinon, il y a des opportunités quand même, je vous assure. Il y en a.
Ça donne envie de partir pour revenir. Et tu pars. tu choisis la bonne entreprise et puis tu attends.
Même partir là, hein, y en a qui partent, mais ils ne peuvent pas revenir, hein, en tout cas comme ils veulent. Hein, parce que partir alors qu'ils sont partis, ils ont tué leur carrière. L'histoire de partir, je pense que. En tout cas, j'espère que j'aurai l'occasion un jour de faire une conférence sur partir, revenir et tout ça. Parce que. J'ai étudié longuement le marché ivoirien avant de pouvoir revenir. J'ai pris mon temps. Il y a des gens qui partent, mais qui ne peuvent plus revenir. Parce qu'ils ont dépassé le timing pour partir. Parce qu'aujourd'hui, en termes de positionnement dans le pays où ils sont devenus trop chers. Voilà. Et ils ont du mal à baisser leurs standards pour s'adapter au marché local. Ou parce qu'ils étaient dans des pays où ils n'ont pas pu évoluer correctement. Et à ce âge-là, et avec le nombre d'expériences, leurs amis sont déjà directeurs. Alors qu'ils n'ont jamais été sur des positions de management parce qu'ils étaient dans des pays, encore une fois, où leur nom, school, je sais quoi, jouer en leur défaveur. Donc, il faut parler. Il y a tout ça, il y a tout ça. Et puis, les études qu'ils ont faites, comment ils ont orienté leur carrière, les sociétés qu'ils ont choisies, tout ça.
Comme Alain te dit là, c'est très important. Et ce serait pas mal de t'avoir encore pour parler de ça sur un podcast spécifique sur ce côté, comment partir, comment revenir là. Ce serait pas mal en tout cas.
Ça. Ok. D'accord, on peut continuer.
Moi, j'ai un petit casse-tête pour toi, Marlène. Un petit cas pratique. Un petit cas pratique. Voilà. En fait, il y a un candidat qui a 35 ans. Il a plus de 35 ans. Et en plus, il a marqué ça sur son CV, s'il savait. Un candidat qui a plus de 35 ans. Et ça fait 5 ans qu'il ne travaille pas, qu'il cherche un emploi. Et ce candidat-là, il se retrouve devant toi. Mais il se retrouve devant un autre recruteur. Est-ce qu'il y a une chance d'être retenu pour un entretien? D'abord même, avant même qu'on parle d'un emploi, est-ce qu'il y a une chance d'être retenu pour un entretien? Et après, est-ce qu'il y a une chance d'avoir un emploi?
Ça dépend sur quel type d'emploi et ça dépend de pourquoi il est en inactivité depuis 5 ans. Et ça dépend ce qu'il a fait de ces 5 ans. Tout dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'aura jamais travaillé à 35 ans, c'est-à-dire jamais, jamais, jamais eu d'expérience pratique. Je ne dis pas que c'est impossible parce que sinon je ne croirais pas en Dieu, mais je dis que ça va être difficile. Ça va être difficile. Quelqu'un qui a travaillé et pour des raisons X, Y ou Z, à arrêter de travailler, que ce soit pour des problèmes familiaux, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons de santé et tout ça, la personne peut toujours le rattraper. Si pendant cette période-là, cette période d'inactivité, la personne s'est mise à jour en termes de connaissances et de compétences. Mais par exemple, pour les femmes, il y a des femmes qui prennent un long congé parental. Qui ont eu une belle carrière, je dis n'importe quoi, 10 ans, 10 ans d'expérience, et puis à un moment donné, ce sont. Bon, moi, je m'arrête 5 ans, je fais mes enfants, je m'en occupe jusqu'à ce qu'ils aient 5 ans, ils sont en âge d'aller à l'école, où il y a des femmes qui
À
suivent
la
leur mari.
maternelle et tout.
Il y a des femmes qui suivent leur mari en expatriation. On a ce cas-là, des femmes qui ont eu de brillantes carrières, mais à un moment donné, elles ont décidé de faire le choix de suivre leur mari. Je dis leur mari, ben c'est rare de l'autre côté, mais bon. Donc, les femmes ont suivi leur mari. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant ces 5 ans? D'autres montent des activités, d'autres font des blogs, d'autres font des formations, d'autres font des diplômes, ça dépend. Je dis au fait, tout dépend de comment tu expliques ce que tu as fait pendant les 5 ans. Moi, je connais personnellement quelqu'un qui, pendant 5 ans, a suivi son mari en expatriation, mais qui a très bien rebondi. Et on en rencontre. Ça dépend de ce que vous avez acquis. Je dis n'importe quoi, si vous êtes parti en Chine, OK, avec l'importance du chinois du coup, de plus en plus. Entre celui qui va nous traduire tous nos documents en chinois, en plus, qui va nous ramener un gros marché chinois. Et puis celui qui est resté 5 ans en poste, qui ne peut pas nous ramener les Chinois, ben on va prendre celui qui va nous ramener les Chinois. Je ne sais pas si vous comprenez.
C'est clair.
C'est un avantage. Et la personne a fait 5 ans sans travailler, mais pendant 5 ans, la personne maîtrise le mandarin. Écrit, lu, parler, tout. Cette personne-là, dans une entreprise, mais c'est une perle.
C'est clair.
Par exemple, sur le
Ah,
si. Luxe, c'est une perle. Voilà, donc,
Ouais.
ça. Ça dépend en fait. C'est pour ça que je dis
C'est au cas
l'histoire
par
des
cas.
5 ans, au cas par cas. Mais c'est vrai que c'est difficile. Une personne, par exemple, qui a eu une aventure entrepreneuriale qui s'est mal terminée, elle a retenu, elle a appris, elle a géré des équipes, elle a fait des erreurs, elle s'est relevée. Bon, est-ce qu'on peut dire que cette personne n'a rien fait pendant. Mais si, waouh, mais c'est pas facile. Voilà. Faut pas que je fasse, c'est pas facile, mais c'est possible.
Okay.
Au moins, ça donne un peu d'espoir. Si on a mis à profit les 5 ans, ou bien on a mis à profit
Oui.
tout le temps où on n'a pas exercé pour apprendre quelque
Ça
chose qui peut être.
dépend. Ça dépend.
Toujours dans le même cadre des recrutements, hein. Moi, j'aimerais savoir quel est l'élément principal qui fait la différence lorsque vous devez faire un choix entre deux candidats. C'est-à-dire un qui a peut-être moins d'expérience par rapport à un autre qui a beaucoup plus d'années d'expérience. Quel est l'élément clé qui vous permet de faire la différence?
Je dirais l'élément clé qui nous permet de faire la différence. Certaines personnes, et moi je les appelle les gens de la vieille école, sont très, très en nombre d'années d'expérience. Ça me dérange au plus haut point. Mais, quelquefois, vous allez voir des personnes qui font confiance au talent. Il y a des personnes qui font confiance au talent, qui cherchent les compétences. Parce qu'en fait, le nombre d'années d'expérience, pourquoi les gens parlent du nombre d'années d'expérience? Parce qu'il faut un indicateur. Parce que certaines personnes pensent qu'on acquiert de la maturité en fonction des années. Mais tout à l'heure, on a parlé des personnes qui sont dans des sociétés plus matures, des personnes qui ont été confrontées à des situations, mais qui ont une maturité que certaines personnes n'auront pas malgré leurs 10 années d'expérience. Et on rencontre en entretien, on a des personnes qui ont 10 ans d'expérience, 12 ans d'expérience, mais qui viennent en entretien, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 12 ans-là. Et on a des personnes qui viennent, à qui on décide de faire confiance et qui viennent avec 4-5 bonnes années d'expérience, mais qui ont tellement de potentiel que vous, c'est la compétition.
Toujours à ce niveau, on a souvent en entreprise, on voit souvent des services grandir. Au départ, on voit c'est une personne. Après, la personne, elle met en place des nouveaux produits, mais de nouveaux services, ou bien elle essaye de se créer d'autres activités. Après, ça devient 3 personnes. Après, ça devient un service. Après, ça devient un département. Après, ça devient une direction. Donc, en fait, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des techniques ou bien des manières pour faire évoluer son grade ou bien son poste, ou bien son niveau de poste en entreprise en lui donnant plus de volume? Est-ce que ça marche vraiment comme ça? Est-ce que c'est faisable, en fait?
Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Avant, ce sont des pratiques que les gens faisaient. C'est-à-dire, à la tête, là, on regarde, on aime bien ta tête, tu changes de grade. Maintenant, non. C'est pour ça que les gens font la pesée des postes. Tout à l'heure, on en a parlé.
Oui.
La pesée des postes nous permet d'avoir une cartographie des emplois dans une société. Et la cartographie, elle évolue en fonction de l'évolution de l'activité, de l'évolution des effectifs et tout ça. Donc, on ne peut pas peser un poste et puis dire qu'il est non cadre. Et parce qu'on vous aime, vous êtes cadre. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans certains cas, si vous venez d'une société où le poste que vous occupiez était un poste de cadre, exceptionnellement, on peut vous accepter, vous garder votre positionnement. Et c'est des choses qui sont dangereuses parce qu'en termes de dévolution, ça va être compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme on entend des personnes qui disent « Ah, moi j'ai un bac plus 5, depuis là je suis non cadre. » Je dis « Mais non, c'est pas parce que tu as un bac plus 5 que tu es non cadre. C'est parce que tu es sur un poste de non cadre. Même si tu as un bac plus 10, maintenant que tu as le bac plus 5 et que tu es sur un poste de non cadre, parce que tu as le bac plus 5, tu peux prétendre, s'il y a une mobilité en interne, postuler sur un poste de cadre. C'est comme ça que ça se fait au fait.
Exactement.
D'accord. Mais je ne sais pas si tu as déjà rencontré des personnes, par exemple, qui étaient sur une activité qui était, on va dire, pas très, très importante dans l'entreprise. Mais ces personnes-là sont tellement dynamiques. Elles savent, en fait, s'accaparer d'autres activités ou bien créer d'autres activités. Et ce qui fait que leur domaine évolue. Et de facto, on leur donne plus de poids, plus de grade, plus de responsabilités. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce genre de personnes-là. Des fois, on voit ça un peu dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils grossissent un peu. Et lorsqu'ils grossissent, ça fait en même temps grandir le niveau de poste. Et on s'est rendu compte des fois que des gens sont passés de technicien, mais agent de maîtrise, à directeur, en fonctionnant un peu comme ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est une technique aussi pour se donner plus de valeur, mais plus de volume en entreprise? Ou bien est-ce que vraiment c'est des cas vraiment très rares?
Non, au fait, c'est pour ça que je dis, ça dépend de l'histoire de votre entreprise. Dans des structures qui sont déjà grandes, qui sont structurées, quelle que soit l'évolution. Par exemple, chez nous, quelle que soit l'évolution, il y a un DRH, quoi. Bon, je ne sais pas. Dans une société qui vient de, il y a un seul poste, le département ressources humaines est constitué d'une seule personne. Que vous soyez agent de maîtrise, cadre, c'est une seule personne. Avec la force des choses, vous passez de 100 personnes à 300 personnes. Évidemment, on a besoin de deux autres personnes, par exemple, de personnes à l'administration, d'une assistante, de machin et tout. Donc, vous n'êtes plus celui qui fait tout. Vous montez petit à petit parce que vous avez créé le département ressources humaines. Vous montez petit à petit sur un poste de directeur. Mais vous ne pouvez pas être directeur et non cadre. Ce n'est pas possible.
Ah, je comprends.
Ça, c'est particulier. Mais ce n'est pas la norme, au fait. La norme veut que... La norme, c'est on identifie un poste, on le pèse, on fait une cartographie des métiers de l'entreprise et ensuite, on fait des espèces d'hiérarchies. Dans une société familiale, je dis n'importe quoi, vous pouvez être dans une société familiale, vous pouvez avoir un intitulé de poste de directeur, mais en vérité, vous êtes directeur d'une seule personne. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait.
Si, on comprend.
Vous êtes directeur, c'est pas... Nous, dans le recrutement, on a beaucoup de, moi, surtout en Afrique, c'est fou. Moi, en Côte d'Ivoire, j'hallucine. Il y a des gens, quel que soit le niveau de salaire que tu leur proposes, si ils ne sont pas, on n'a pas mis chef de service, c'est pas bien. Encore pour les grades, je dis bon, ça intervient dans la retraite et tout ça. On te donne le grade. On dit tu n'es pas chef de service. Mais il préfère même qu'on lui donne un type de superviseur. Petit salaire ou bien superviseur, il manque une personne, mais il veut être superviseur. Moi, je ne sais pas.
Manager.
Il est responsable de, il est manager de. Je dis bon. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ton contenu de poste est intéressant, oui, mais vous savez, moi, je suis déjà sur une position de... Tu suis mais dans la position où tu es là. Oui, tu as peut-être le titre de directeur adjoint et tout, mais en termes d'activité, nous, en termes de challenge, on te propose beaucoup plus. En plus, on te propose un salaire plus élevé. Mais ils voient ça comme une humiliation.
C'est ça.
Bon, ça, c'est le cas. Ça, c'est... Mais c'est... En fait, c'est la même façon de penser, hein. Donc, des personnes qui estiment
que... C'est le titre, moi, en fait.
Oui, j'entends des personnes qui me disent « Ça fait 10 ans, madame, que je suis caissière dans cette société. Mon grade n'a jamais évolué. » Je dis « Mais moi, je ne comprends pas. » Vous ne le dites pas méchamment parce qu'en même temps, voilà, c'est pas le but, c'est pas... Les gens viennent prendre conseil au vous. Et vous le dites « Mais ça fait 10 ans, vous faites la même chose. » Oui, vous avez essayé. J'ai un diplôme, j'ai fait un master. Je dis « Mais vous, j'ai eu des offres en interne. Vous avez essayé de postuler. » Ah bon, je dois postuler. Je dis, mais oui, puisqu'on met, il y a la promotion et puis il y a des gens qui postulent aussi, non? Même en interne, puisqu'il y a la mobilité interne. Ah oui, mais bon, moi, je pensais que... Je dis, mais non! Si vous êtes sur un poste d'agent de maîtrise ou bien sur un poste de, je ne sais pas quoi, de technicien, comme on veut l'appeler en fonction des trucs, mais ça fonctionne comme ça. Mais non, il y a des entreprises parce qu'ils ont commencé, avec le PDG, le directeur, l'entreprise. C'est le fondateur, ensuite il y avait deux personnes, après on évolue, après on est grade, maintenant voilà.
Si.
Donc ça dépend de quelle entreprise. Si vous êtes dans une grande entreprise que vous espérez évoluer en mode TPE, ça va être compliqué. Dans des petites structures, on évolue beaucoup plus facilement. On évolue beaucoup plus facilement.
C'est clair. Et si on reste toujours dans le cadre de l'évolution et promotion, moi j'ai une question à deux volets. Le premier volet, c'est de demander comment fait-on pour pouvoir obtenir une promotion d'embauche. Et le deuxième volet de ma question, c'est avons-nous forcément besoin de se créer un réseau de relations au sein de l'entreprise pour favoriser notre ascension?
Il y a plusieurs types de promotion.
Okay.
Déjà, on peut obtenir une promotion par une candidature interne, c'est-à-dire dans des sociétés, il y a plusieurs sociétés qui ouvrent les offres en interne avant de les ouvrir en externe. Donc, ils donnent la possibilité aux gens qui ont envie d'évoluer, qui ont les compétences, de postuler. Vous pouvez postuler et vous avez une promotion. Ensuite, vous pouvez ne pas postuler et puis par rapport à vos aptitudes, par rapport à vos compétences, votre manager a envie de vous faire monter sur un poste plus élevé. Il approche la direction des ressources humaines. La direction des ressources humaines émet un avis RH en fonction des aptitudes, en fonction des pour, des contre et tout ça. et fait un rapport et la décision est prise, vous avez une promotion. La promotion, moi j'aime dire aux gens, la promotion dépend à la fois de vos managers et de vous. On n'a pas de promotion sans l'aval de son manager. Pas possible. À part si vous changez de service. Chez nous, on a la mobilité interne, au sein de société, on a la mobilité interne qui permet à des personnes de partir d'une direction à une autre. Okay. Ça, c'est de partir d'une direction à une autre. Par contre, si vous voulez évoluer au sein du service, ça dépend de vos compétences et ça dépend aussi de ce que, de l'opinion que votre manager a. Maintenant, croire que, moi je pense, c'est croire qu'on peut rester dans son coin, ne parler à personne, être désagréable avec tout le monde et puis avoir une promotion et se blaguer. Il y a le réseau externe, il y a le réseau interne. On ne demande pas d'être copain avec tout le monde, mais tout ce qui se fait bien s'entend. L'esprit d'équipe se voit. Les qualités personnelles se voient. Si vous êtes introverti, ça se voit. Si vous êtes extraverti, ça se voit. Si vous êtes dans l'accompagnement des autres, ça se voit. Si vous avez envie que les choses changent dans un département, ça se voit. Si vous êtes agréable, ça se voit. En fait, il y a une espèce de personal branding au sein de l'entreprise qui ne dit pas son nom. Qu'on le veut.
Ah, c'est bien dit. Personal branding, vraiment très bien dit.
Qui ne dit pas son nom. Et quelquefois, les gens ont tendance à penser, ben ouais, mais moi, même si votre... C'est comme, je vous donne un exemple. On a des personnes qui sont... On a des collaborateurs, des collègues qui sont très découragés parce qu'ils estimaient qu'ils devaient avoir une promotion, ils ne l'ont pas eu. Ils estiment que le manager avec qui ils travaillent ne les apprécie pas à leur juste valeur et tout ça. Et ces personnes-là arrêtent de bosser. C'est-à-dire, ils ne performent plus, ils sont plus dynamiques, ils font n'importe quoi, ils se pointent au travail, ils font à peine 2 heures, ils se mettent en arrêt maladie tout le temps. Tout ça, c'est des signes de démotivation. En fin d'année, ils sont notés en dessous des attentes et ils ont envie de partir en mobilité. Mais puisque les services d'une entreprise sont interconnectés, pendant que vos collègues vous ont appelé 4-5 fois que vous n'avez pas décroché, pendant qu'une autre un autre service avait besoin de vous que vous n'avez pas répondu présent, qui va vouloir de vous dans son équipe? Pendant que votre manager a passé toute l'année à se plaindre que vous êtes incompétent, parce qu'un manager peut dire que vous êtes incompétent et puis tout le monde va dire, ben non, attends, tu abuses là. Oui, moi j'ai travaillé avec lui. Non. Et puis il y a quelqu'un qui dit, ah oui, mais tu as vraiment raison parce que moi je l'ai attendu sur tel sujet, elle m'a répondu 10 ans après, moi je l'ai attendu sur tel machin, elle m'a répondu 100 ans après et tout. Donc la carrière, on la gère aussi au sein de l'entreprise. Maintenant, si vous êtes copain avec tout le monde, que vous foutez rien, que vous avez des mauvaises notes, vous pouvez avoir des mauvaises
notes. Il y a toujours des cas extrêmes. Il y a des cas aux deux extrémités. Mais souvent, donc, voilà. Ce qui revient, c'est que pour avoir une promotion, il faut se mettre aussi souvent dans une certaine peau. C'est-à-dire, tu veux avoir une promotion, mais quand on vient te confier de nouvelles responsabilités, qui ne viennent peut-être pas avec le salaire ou bien avec, avec une augmentation salariale, tu les refuses. Non, ça, bon, je ne fais pas parce que voilà, on ne va pas me payer pour ça. Mais souvent aussi, tu peux décider de prendre ces responsabilités-là, même si on ne te paye pas pour ça. Mais tu prends ça, tu montres une certaine sorte d'engagement, en fait, vis-à-vis de l'employeur qui peut peut-être payer 2 ans ou bien 3 ans au bout de la ligne. Donc, ce sont des choses que les gens doivent aussi comprendre et pouvoir mettre dans la balance parce qu'on a tendance à dire « je veux des promotions », mais quand on vient te confier de nouvelles responsabilités, par exemple, est-ce que tu peux faire le suivi ou bien l'évaluation de telle personne? Tu te dis « ah, ça, c'est pas dans mon boulot, peut-être ça, c'est le boulot du manager, il veut me donner son boulot parce que lui, il veut partir faire autre chose, il ne veut pas travailler, il ne veut pas faire son travail, mais bon. » Au final, ce qu'il perd, c'est toi, l'employé qui cherche la promotion. Donc, quand tu cherches la promotion, à toi d'accepter, ça va prendre sur toi. Et puis, bon, tu ne payes rien, tu apprends au contraire. Donc, je pense que ce sont des choses qu'on peut faire, quoi.
Et puis, il faut dire, tout ce qui est normal, tu ne remarques pas.
C'est ça, c'est clair.
Ouais, ça.
Ça, il faut que ça va être ma prochaine publication. Tout ce qui est normal ne se remarque pas, au fait. Ça, il faut le dire. Tant que vous restez dans le truc normal... Tout ce qui est normal ne se remarque pas. Donc, c'est quand vous allez commencer à faire des choses extra que les gens vont vous remarquer, que les gens vont parler de vous, que ce soit en termes de, je ne sais pas, chaque entreprise a des valeurs, qu'est-ce qui parle à l'entreprise, qu'est-ce qui parle au manager, tout ce qui est normal. On va remarquer un employé qui fait des extra time sans qu'on le paye. On va remarquer un employé toujours disponible le samedi ou le dimanche, même si on ne le dit pas, on le remarque forcément. On va remarquer un employé qui, même quand il est, je ne sais pas à quoi, là, l'empour, on l'appelle pour lui demander un paper alors qu'il est au bord de la, il est au bord de la piscine. Et puis, il lui dit, ben, écoutez, je suis en vacances à mon bec, mais bon, je vais quand même le faire quoi, parce qu'il faut que je sorte l'équipe des problèmes. On va remarquer qu'on a quelqu'un qui a eu sa promotion, il a demandé exceptionnellement à ne pas partir en congé de maternité avant. Elle a demandé exceptionnellement à partir en congé de maternité à 8 mois. Elle a signé une décharge pour dire que s'il y avait des trucs et tout ça. Mais elle est restée jusqu'à son 8 mois, à 8 mois de grossesse, quoi. Elle a bossé parce qu'elle ne voulait pas perdre son année. Parce que. Mais quand tu finis de faire son sortie de ça, c'est une entreprise. C'est une promotion, quoi. Si tu es compétent.
C'est clair.
Oui.
Ah non, ça donne des idées.
Non, mais au fait, même c'est un gros risque. Parce qu'elle a, elle a dit. Je suis prête à sacrifier mon congé de maternité, mais ça, il faut le faire. Les gens vont lui dire, elle était conne, elle était ceci. Elle aurait pu ne pas être récompensée. Oui.
Ouais.
Elle n'aurait pu ne pas être récompensée. Mais en même temps, je dis, la réputation ne parle pas forcément dans l'entreprise parce que les gens bougent tellement. Votre manager peut ne pas vous récompenser, votre direction peut ne pas vous récompenser. Et puis, quelqu'un qui a travaillé avec vous pendant qu'on est en train de parler de recrutement d'une personne très engagée va dire waouh, moi je connais Marc Landry, il est tellement engagé, voilà les trucs qu'il a fait, en plus il est compétent, en plus il est brillant. Avant même d'avoir fait l'entretien, vous avez déjà 70% de chances d'être recruté.
C'est clair.
Moi je dis, au fait, on ne gère pas sa carrière par rapport à ce que l'entreprise est en train de me faire, par rapport aux humeurs de mon boss, par rapport aux humeurs de je ne sais qui, par rapport, non, c'est votre réputation, c'est la réputation, c'est quelque chose qui vous suit, au fait.
On a aussi une question d'un auditeur qui est en train de faire une transition de carrière. Moi, je l'ai compris, en fait, que c'est, par exemple, une personne qui est dans un domaine bien précis, et qui est en train de changer carrément de domaine. Et l'auditeur nous demande comment gérer avec succès une transition de carrière.
Oula, ça franchement, c'est vraiment au cas par cas. C'est quelque chose sur lequel, quand vous dites transition de carrière, c'est-à-dire une reconversion professionnelle.
C'est bien ça.
C'est vraiment le cas par cas. Parler de façon générale comme ça sur la reconversion professionnelle, ça dépend. Une reconversion professionnelle dans un métier qui s'apparente beaucoup à son métier, à son ancien métier, reconversion professionnelle dans un métier qui est totalement différent. Je peux brièvement vous parler du cas où c'est totalement différent. Il faut accepter déjà de se positionner en junior sur le nouveau métier.
Ok.
Parce que ça, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, pendant 10 ans, j'ai fait de la comptabilité. Je viens sur des problématiques de ressources humaines ou de RH. Il faut comprendre que le petit jeune diplômé qui sort et qui a fait un an d'expérience est plus senior que moi sur les ressources humaines. C'est frustrant, mais c'est la vérité. Les 10 ans en comptabilité vont vous servir, mais pas au début de la reconversion, peut-être dans 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Donc c'est surtout accepter de faire le sacrifice de ces années passées. C'est le plus dur dans une reconversion professionnelle.
Ok.
Ok.
C'est clair. Et bien là, on a une dernière question. C'est de savoir, quels sont les meilleurs sites en Côte d'Ivoire pour trouver un nouvel emploi, que ce soit pour un emploi junior ou bien que ce soit pour un emploi senior?
Nouveau job,
ok.
Educarrière.ci.
D'accord.
Emploi.ci. Et en termes de réseaux sociaux, LinkedIn. Et tout.
Ok. Nouveau job. Emploi.ci, éducarrière.ci et LinkedIn. D'accord.
Ce qui est bien dit, Marlène, nous te remercions et nous allons marquer une pause là et nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie. Et oui, ça sera la dernière partie. Cette fois, ça sera pour parler de démission, de rétention salariale, des négociations salariales. C'était Marc Landry et Franck Fadé pour le podcast Ivoire Talent. Merci et à bientôt.